Boileau, satire 9. C'est à vous, mon esprit, à qui je veux parler. Vous avez des défauts que je ne puis celer. Assez et trop longtemps, ma lâche complaisance de vos jeux criminels a nourri l'insolence. Mais, puisque vous poussez ma patience à bout, une fois en ma vie, il faut vous dire tout. On croirait à vous voir dans vos livres caprices discourir en caton des vertus et des vices, décider du mérite et du prix des auteurs, et faire impunément la leçon au docteur, qu'étant seul à couvert des traits de la satire, vous avez tout pouvoir de parler et d'écrire. Mais moi, qui dans le fond sais bien ce que j'en crois, qui compte tous les jours vos défauts par mes doigts, je ris quand je vous vois si faible et si stérile, prendre sur vous le soin de réformer la ville. Dans vos discours chagrins, plus aigres et plus mordants qu'une femme en furie ou Gautier en plaidant. Mais répondez un peu. Quelle verve indiscrète, sans la venée neuf muses, vous a rendu poète? Sentez-vous, dites-moi, ces violents transports qui d'un esprit divin font mouvoir les ressorts? Qui vous a pu souffler une si folle audace? Phébus a-t-il pour vous aplani le Parnasse? Et ne savez-vous pas que, sur ce mont sacré, qui ne vole au sommet, tombe au plus haut degré, et qu'à moins d'être au rang d'Horace ou de voiture, on rampe dans la fange avec l'abbé de Pure? Que si tous mes efforts ne peuvent réprimer cet ascendant malin qui vous force à rimer, sans perdre en vain discours tout le fruit de vos veilles, osez chanter du roi les augustes merveilles. Là, mettant à profit vos caprices divers, vous verriez tous les ans fructifier vos vers, et par l'espoir du gain, votre muse animée vendrait au poids de l'or une once de fumée. Mais en vain, direz-vous, je pense vous tenter par l'éclat d'un fardeau trop pesant à porter. Tout chantre ne peut pas, sur le ton d'un Orphée, entonner en grand vers la discorde étouffée, peindre Bellone en feu tenant de toutes parts, et le Belge effrayé fuyant sur ses remparts. Sur un ton si hardi, sans être téméraire, Racan pourrait chanter au défaut d'un Homère. Mais pour Cotin et moi, qui rimons au hasard, que l'amour de blâmer fit poète par art, quoiqu'un tas de grimauds vante notre éloquence, le plus sûr est pour nous de garder le silence. Un poète insipide et sottement flatteur déshonore à la fois le héros et l'auteur. Enfin, de tels projets passent notre faiblesse. Ainsi parle un esprit languissant de mollesse, qui, sous l'humble dehors d'un respect affecté, cache le noir venin de sa malignité. Mais, dussiez-vous en l'air voir vos ailes fondues, ne valait-il pas mieux vous perdre dans les nues que d'aller sans raison, d'un style peu chrétien, faire insulte en rimant à qui ne vous dit rien, et du bruit dangereux d'un livre téméraire à vos propres périls enrichir le libraire? Vous vous flattez peut-être en votre vanité d'aller comme un Horace à l'immortalité. Et déjà, vous croyez, dans vos rimes obscures, aux sommets futurs préparer des tortures. Mais combien d'écrivains, d'abord si bien reçus, sont de ce fol espoir honteusement déçus? Combien, pour quelques mois, ont vu fleurir leurs livres dont les vers en paquet se vendent à la livre? Vous pourrez voir un temps vos écrits estimés courir de main en main par la ville semée, puis de là, tout poudreux, ignoré sur la terre, suivre chez l'épicier neuf germains et la serre, ou de 30 feuillets réduits peut-être à 9, parer, demi-ronger les rebords du Pont-Neuf. Le bel honneur pour vous, en voyant vos ouvrages occuper le loisir des laquais et des pages, et souvent, dans un coin, renvoyé à l'écart, servir de second homme aux airs du Savoyard. Mais je veux que le sort, par un heureux caprice, fasse de vos écrits prospérer la malice, et qu'enfin votre vie livraille au gré de vos vœux, faire siffler Cotin chez nos derniers neveux. Que vous sert-il qu'un jour l'avenir vous estime, si vos vers aujourd'hui vous tiennent lieu de crime, et ne produisent rien pour fruit de leurs bons mots, que l'effroi du public et la haine des sots? Et quel démon vous irrite et vous porte à médire? Un livre vous déplaît, mais qui vous force à le lire? Laissez mourir un fat dans son obscurité. Un auteur ne peut-il pourrir en sûreté? Le Jonas inconnu sèche dans la poussière. Le David imprimé n'a point vu la lumière. Le Moïse commence à moisir par les bords, mais quel mal cela fait-il? Ceux qui sont morts sont morts. Le tombeau contre vous ne peut-il les défendre? Et qu'ont fait tant d'auteurs pour remuer leurs cendres? Que vous ont fait Perrin, Bardin, Bradeau, Hainaut, Colletet, Pelletier, Titreville, Quinault, dont les noms en 100 lieues, placés comme en leur niche, vont de leurs vers malins remplir les hémistiches? Ce qu'ils font vous ennuie? Oh, le plaisant détour! Ils ont bien ennuyé le roi, toute la cour, sans que le moindre édit ait, pour punir leur crime, retranché les auteurs ou supprimé la rime. Écrive qui voudra. Chacun à ce métier peut perdre impunément de l'encre du papier. Un roman, sans blesser les lois ni la coutume, peut conduire un héros au 10e volume. De là vient que Paris voit chez lui de tout temps les auteurs à grand flot débordés tous les ans, et n'a point de portail où, jusque aux corniches, tous les piliers ne soient enveloppés d'affiches. Et vous seul, plus dégoûté, sans pouvoir et sans nom, viendrez régler les droits et l'état d'Apollon? Mais vous, qui raffinez sur les écrits des autres, de quel œil pensez-vous qu'on regarde les vôtres? Il n'est rien en ce temps à couvert de vos coups, mais savez-vous aussi comment on parle de vous? Gardez-vous, dira l'un, de cet esprit critique. On ne sait bien souvent quelle mouche le pique, mais c'est un jeune fou qui se croit tout permis et qui, pour un bon mot, va perdre 20 amis. Il ne pardonne pas au vers de la pucelle, et croit régler le monde au gré de sa cervelle. Jamais dans le barreau trouva-t-il rien de bon? Peut-on si bien prêcher qu'il ne dorme au sermon? Mais lui, qui fait ici le régent du Parnasse, n'est qu'un gueux revêtu des dépouilles d'Horace. Avant lui, Juvénal avait dit en latin qu'on est assis à l'aise au sermon de Cotin. L'un et l'autre avant lui s'étaient plaints de la rime, et c'est aussi sur eux qu'il rejette son crime. Il cherche à se couvrir de ses noms glorieux. J'ai peu lu ses auteurs, mais tout n'irait que mieux quand de ses médisants l'engeance tout entière irait la tête en bas, rimée dans la rivière. Voilà comment on vous traite. Et le monde effrayé vous regarde déjà comme un homme noyé. En vain, quelques rieurs prenant votre défense veut faire au moins de grâce adoucir la sentence. Rien n'apaise un lecteur, toujours tremblant d'effroi, qui voit peindre en autrui ce qu'il remarque en soi. Vous ferez-vous toujours des affaires nouvelles? Et faudra-t-il sans cesse essuyer des querelles? N'entendrai-je qu'auteur se plaindre et murmurer? Jusqu'à quand vos fureurs doivent-elles durer? Répondez, mon esprit, ce n'est plus raillerie. Dites, mais direz-vous, pourquoi cette furie? Quoi, pour un maigre auteur que je glose en passant, est-ce un crime après tout, et si noir et si grand? Et qui, voyant un fat s'applaudir d'un ouvrage, où la droite raison trébuche à chaque page, le s'écrie aussitôt: l'impertinent auteur, l'ennuyeux écrivain, le maudit traducteur. À quoi bon mettre au jour tous ces discours frivoles et ces riens enfermés dans de grandes paroles? Est-ce donc là médire ou parler franchement? Non, non, la médisance y va plus doucement. Si l'on vient à chercher, pour quel secret mystère, Alidor à ses frais bâtit un monastère. Alidor, dit un fourbe, oh, il est de mes amis, je l'ai connu laquais avant qu'il fût commis. C'est un homme d'honneur, de pitié profonde, et qui veut rendre à Dieu ce qu'il a pris au monde. Voilà jouer d'adresse et médire avec art. C'est avec respect enfoncer le poignard. Un esprit né sans farce, sans basse complaisance, fuit de ce ton radouci que prend la médisance. Mais de blâmer des vers ou durs ou languissants, de choquer un auteur qui choque le bon sens, de railler un plaisant qui ne sait pas nous plaire, c'est ce que tout lecteur eut toujours droit de faire. Tous les jours, à la cour, un sot de qualité peut juger de travers avec impunité. À Malherbe, à Racan, préféré Théophile, et le clinquant du tasse à tout l'heure de Virgile, un clerc pour 15 sous, sans craindre le holà, peut aller au parterre attaquer Attila. Et si le roi des Huns lui charme l'oreille, traiter de Visigoth tous les vers de Corneille. Il n'est valet d'auteur ni copiste à Paris, qui, la balance en main, ne pèse les écrits. Dès que l'impression fait éclore un poète, il est esclave né de quiconque l'achète. Il se soumet lui-même aux caprices d'autrui, et ses écrits tout seuls doivent parler pour lui. Un auteur à genoux dans une humble préface, au lecteur qui l'ennuie a beau demander grâce. Il ne gagnera rien sur ce juge irrité qui lui fait son procès de pleine autorité. Et je serai le seul qui ne pourrait rien dire. On sera ridicule et je n'oserai rire. Et qu'on produit mes vers de si pernicieux pour armer contre moi tant d'auteurs furieux. Loin de les décrier, je les ai fait paraître, et souvent, sans ces vers qui les ont fait connaître, leur talent dans l'oubli demeurerait caché. Et qui saurait, sans moi, que Cotin a prêché ? La satire ne sert qu'à rendre un fat illustre. C'est une ombre au tableau qui lui donne du lustre. Et les blâmant enfin, j'ai dit ce que j'en crois. Et tel qui m'en reprend pense autant que moi. Il a tort, dira l'un, mais pourquoi faut-il qu'il nomme ? Attaquer Chapelain, oh, c'est un si bon homme. Balzac en fait l'éloge en 100 endroits divers. Il est vrai, il m'eût cru qu'il n'eût point fait de vers, il se tue à rimer, que n'écrit-il en prose ? Voilà ce que l'on dit. Et que dis-je autre chose en blâmant ses écrits ? Ai-je d'un style affreux distillé sur sa vie un venin dangereux ? M'amuse en l'attaquant, charitable et discrète, c'est de l'homme d'honneur distinguer le poète. Qu'on vante en lui la foi, l'honneur, la probité, comprise sa candeur et sa civilité, qu'il soit doux, complaisant, officieux, sincère, on le veut, j'y souscris et je suis prêt de me taire. Mais que pour un modèle on montre ses écrits, qu'il soit le mieux renté de tous les beaux esprits, comme roi des auteurs, qu'on l'élève à l'empire, oh, ma bile alors s'échauffe, et je brûle d'écrire. Et s'il m'est permis de le dire au papier, j'irai creuser la terre, et comme ce barbier fait dire au roseau par un nouvel organe, Midas, le roi Midas a des oreilles d'âne. Quel tort lui fais-je enfin ? Ai-je par un écrit pétrifié sa veine et glacé son esprit ? Quand un livre au palais se vante et se débite, que chacun par ses yeux juge de son mérite, que Bilienne l'étale au deuxième pilier, le dégoût d'un censeur peut-il le décrier ? En vain contre le Cid un ministre se ligue, mais tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue. L'Académie encore a beau le censurer, le public révolté s'obstine à l'admirer. Mais lorsque Chapelain met une œuvre en lumière, chaque lecteur d'abord lui devient un lignaire. En vain il a reçu l'encens de 1000 auteurs, son livre en paraissant dément tous ses flatteurs. Ainsi, sans m'accuser, quand tout Paris le joue, qui s'en prenne à ses vers que Phébus désavoue, qui s'en prenne à sa muse allemande en français. Mais laissons Chapelain pour la dernière fois. La satire, dit-on, est un métier funeste qui plaît à quelques gens et choque tout le reste. La suite en est à craindre. En ce hardi métier, la peur plus d'une fois fit repentir Régnier. Quittez ces vains plaisirs dont la part vous abuse. À de plus doux emplois, occupez votre muse et laissez à feuillère et former l'univers. Sur quoi donc faut-il que s'exercent mes vers? Irai-je dans une ode en phrase de Malherbe, troubler dans ses roseaux le Danube superbe, délivrer de Siron le peuple gémissant, faire trembler Memphis ou pâlir le croissant, et, passant du jour dans les ondes alarmées, cueillir mal à propos les palmes inhumées? Viendrai-je en une églogue entourée de troupeaux, au milieu de Paris enfler mes chalumeaux, et dans mon cabinet, assis au pied des hêtres, faire dire aux échos des sottises champêtres? Faudra-t-il le sens froid et sans être amoureux, pour quelqu'un qui rit sans l'air, faire le langoureux, lui prodiguer les noms de soleil et d'aurore, et toujours bien mangeant, mourir par métaphore? Je laisse aux douces heureux ce langage affêté, où s'endort un esprit de mollesse hébété. La satire en leçon, en nouveauté fertile, c'est seul assaisonner le plaisant et l'utile. Et d'un vers qu'elle est pure au rayon du bon sens, détrompe les esprits des erreurs de leur tense. Elle seule, bravant l'orgueil et l'injustice, va jusque sous le dé, faire pâlir le vice, et souvent, sans rien craindre, à l'aide d'un bon mot, va venger la raison des attentats d'un sot. C'est ainsi que Lucile, appuyée de Lélie, fit justice en son temps des cottins d'Italie, et qu'Horace, jetant le sel à pleine main, se jouait aux dépens des pelletiers romains. C'est elle qui, m'ouvrant le chemin qu'il faut suivre, m'inspira dès 15 ans la haine d'un sot livre, et sur ce mont fameux où j'osais la chercher, fortifia mes pas et m'apprit à marcher. C'est pour elle, en un mot, que j'ai fait vœu d'écrire. Toutefois, s'il le faut, je veux bien m'en dédire, et pour calmer enfin tous ces flots d'ennemis, réparer en mes vers les maux que j'ai commis. Puisque vous le voulez, je vais changer de style. Je le déclare donc, Quino est un Virgile, Pradon comme un soleil en osant apparu. Au pelletier écrit mieux qu'à Brancourt ni Patru. Cotin, à ses sermons traînant toute la terre, fend les flots d'auditeurs pour aller à sa chair. Sophale est le phénix des esprits relevés, Perrin. Bon, mon esprit, courage, poursuivez. Mais ne voyez-vous pas que leur troupe en furie va prendre encore ses vers pour une raillerie? Et Dieu sait aussitôt que d'auteurs en courroux, que de rimeurs blessés s'en vont fondre sur vous. Vous les verrez bientôt, fécond en imposture, amasser contre vous des volumes d'injures, traiter en vos écrits chaque vers d'attentat et d'un mot innocent faire un crime d'État. Vous aurez beau vanter le roi dans vos ouvrages et de ce nom sacré sanctifier vos pages, qui méprise Cotin n'estime point son roi et n'a, selon Cotin, ni Dieu, ni foi, ni loi. Mais quoi, répondez-vous, Cotin nous peut-il nuire? Et par ses cris enfin, que saurait-il produire? Interdire à mes vers, dont peut-être il fait cas, l'entrée aux pensions, où je ne prétends pas? Non, pour louer un roi que tout l'univers loue, ma langue n'attend point que l'argent la dénoue, et sans espérer rien de mes faibles écrits, l'honneur de le louer m'est un trop digne prix. On me verra toujours sage dans mes caprices, de ce même pinceau dont j'ai noirci les vis, et peint du nom d'auteur tant de sceaux revêtus, lui marquer mon respect et tracer ses vertus. Je vous crois, mais pourtant on crie, on vous menace. Je crains peu, direz-vous, les braves du Parnasse. Et mon Dieu, mais craignez tout d'un auteur en courroux, qui peut, quoi, oh, je m'entends. Mais encore, taisez-vous !